Alors André nous a parlé dans son introduction de la nature qui nous révèle un peu de Dieu. Et puis il y a une autre chose qui nous révèle encore plus spécialement Dieu, c'est Jésus, la venue de Jésus sur terre. Et puis c'est exactement le thème dont on va parler. Nous on a la chance d'avoir connu cette révélation, la révélation de Jésus, et on est appelé à témoigner de cette révélation qu'on a la chance de porter en nous. Pour ça, je vous propose de lire trois petits extraits, trois textes qui sont bien connus pour la plupart d'entre vous. Ça sera dans Jean. C'est le reniement de Pierre et c'est Jésus qui va parler à Pierre aussi après. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers, alors les deux premiers textes qu'on va lire, ça se passe juste après l'arrestation de Jésus, pendant que Jésus se fait interroger. À ce moment-là, il y a Pierre qui va se retrouver proche du lieu de l'interrogatoire et on va lire ce qui se passe. Oui, alors ça sera Jean 18, la première partie, les versets 15 à 18, 25 à 27 et Jean 21, les versets 15 à 22. Et puis le troisième extrait qu'on lira, ça sera après la résurrection de Jésus. Jésus va apparaître de nouveau aux disciples. Il y aura Pierre et Jean qui seront en train de pêcher avec des compagnons et tout d'un coup Jésus se trouvera là au bord du rivage et il permettra une nouvelle pêche miraculeuse à la suite duquel il y aura un repas, une discussion entre les disciples et à la fin du repas Jésus va parler avec Pierre. Alors je vous propose de lire les trois passages. On va commencer par Jean 18, les versets 15 à 18. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors, près du portail. L'autre disciple, qui connaissait le grand prêtre, ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Non, lui répondit-il. » Je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. Ensuite, la deuxième lecture, toujours Jean 18, les versets 25 à 27. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je n'en suis pas ». Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, un coq se mit à chanter. Et je vous propose de prendre Jean 21, les versets 15 à 22. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. » Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» toi, suis-moi. Voilà. Alors, pour traiter de ce thème, prêt à témoigner de Jésus, j'aimerais qu'on étudie trois points qui sont abordés dans ces textes. Le premier point, c'est l'amour pour Jésus, l'amour de Pierre pour Jésus. Le deuxième point, c'est rendre compte de Jésus. Et le troisième point, c'est la peur qui est sous-jacent aux actions de Paul, en fait. Donc, premièrement, l'amour pour Jésus. Mettez-vous à la place de Pierre. Imaginez, il est tout content, il y a eu la résurrection, il retrouve Jésus, ils mangent ensemble, c'est vraiment super. Mais voilà qu'à la fin du repas, Jésus va lui poser cette question qui va le blesser finalement. Vous vous imaginez, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, en plus si c'est Dieu incarné, mais imaginez-vous quelqu'un, un ami très cher ou votre conjoint ou un parent, quelqu'un que vous êtes sûr que vous êtes en relation très proche, c'est super, et là tout d'un coup il vous demande « mais est-ce que tu m'aimes ?» C'est une question qui fait un peu bizarre, alors bien sûr on va lui dire « oui, bien sûr que je t'aime ». Mais ça ne suffit pas, il doit demander encore une fois « est-ce que tu m'aimes ?» Et là, on commence à se poser des questions sur la relation qu'on peut avoir avec cette personne. On peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il doute de mon amour? Enfin, quelle est la raison de cette question qu'il répète? Puis on répète encore une fois, oui, bien sûr, je t'aime. Et puis, on doit encore se répéter encore une fois, une troisième fois. Ça, c'est vraiment rude comme situation pour Pierre qui se retrouve face à Jésus et Jésus qui lui demande trois fois, mais Pierre, est-ce que vraiment tu m'aimes? J'aime pas faire dire à la Bible plus qu'est-ce qu'elle n'en dit, et c'est pour ça que je trouve un peu risqué de prendre ce passage peut-être, mais je le fais quand même. C'est la plupart des commentateurs, ils sont d'accord pour dire que ces trois questions qui sont posées à Pierre par Jésus, elles font référence aux trois reniements de Pierre qu'il y a eu avant. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer. En fait, lorsque Pierre y renie Jésus, en gros, lorsqu'il n'est pas prêt à témoigner, Jésus ne va pas lui demander « N'avais-tu pas bien compris mon message ?» ou « Qu'est-ce qui t'a manqué comme enseignement pour témoigner ?» Non, ce que Jésus va demander à Pierre, c'est « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que Pierre, tu as de l'amour pour moi ?» Et ça, c'est vraiment significatif. L'amour que nous avons pour Jésus, c'est ça qui va être le socle sur lequel on va pouvoir ensuite témoigner. Si nous n'aimons pas Jésus, si nous n'aimons pas Dieu, ça va être quoi le contenu de notre témoignage? Mais encore plus, si on n'aime pas Dieu, qu'est-ce qui va nous motiver à témoigner de cette relation qu'on a avec Dieu, qu'on n'aime pas vraiment? C'est vraiment ce que Jésus fait remarquer à Pierre en posant cette question de l'amour à trois reprises. Est-ce que vraiment Pierre aime assez Jésus pour témoigner? Et c'est là la vraie question que le texte nous pose à nous, les lecteurs actuels, modernes. Cette question me revient directement sous la forme « Yann, m'aimes-tu assez pour témoigner ?» Et c'est la question que je dois me poser. Est-ce que vraiment l'amour que j'ai pour Dieu me pousse à témoigner? Est-ce que cette bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité, je l'aime assez pour que je veuille en parler autour de moi? Est-ce que ma relation avec Dieu, l'amour que l'on se porte, me pousse à témoigner? Voilà les implications qui sont derrière la question de Jésus à Pierre. Ce que j'ai vu dans mon court parcours de vie, disons, c'est qu'il y a effectivement une immense corrélation entre la qualité de ma relation à Dieu et mon envie de témoigner. Quand je suis très proche de Dieu, c'est beaucoup plus facile de témoigner, c'est beaucoup plus naturel. Je serai comme ça un peu bouillant et j'aurai envie de témoigner de dire « Mais vous connaissez ce Dieu, j'ai la chance de le connaître, c'est chouette, est-ce que vous voulez le connaître aussi ?» Mais quand je m'éloigne, alors là, témoigner, ça devient quelque chose de beaucoup plus artificiel, parce que je parle de quelque chose que je vis un peu moins intensément. Et c'est là que vraiment l'amour qu'on porte pour Dieu entre en compte, parce que cet amour qu'on va porter pour Dieu, eh bien, il va rendre nos témoignages plus naturels ou moins naturels. Attention, ce que je veux pas dire, c'est qu'il faut attendre d'être en relation parfaite avec Dieu, ou même excellente pour pouvoir témoigner. Ça, c'est pas du tout le cas. Il y a des passages qui nous exhortent à être toujours prêts à rendre compte de notre espérance. En 1 Pierre 3, verset 16, il est dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Donc vraiment, on doit être toujours prêt. Mais ce que je veux dire, c'est si on veut se préparer à témoigner le mieux possible, la première chose à faire, c'est se dire « Est-ce que moi j'aime vraiment Dieu ?» J'ai beaucoup parlé de notre amour, l'amour qu'on porte à Dieu, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas par mes propres forces que je vais pouvoir aimer Dieu. C'est lui qui va déverser son amour dans notre cœur, amour qui va ensuite nous permettre de l'aimer en retour. Ce n'est pas pour rien que le plus grand commandement, en Matthieu 22, 37, 38, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Et ça, c'est la base de tout, et c'est aussi la base de notre témoignage. Donc prions pour que Dieu nous apprenne vraiment à l'aimer pour pouvoir témoigner d'une manière efficace. Mon deuxième point, c'est rendre compte de Jésus. Pierre, c'est un disciple de Jésus, et c'est ce qu'on lui affirme en fait. Dans cet endroit-là où il est avec les gardes, on va lui demander, on va lui dire, mais toi, on sait, t'es un disciple de Jésus. Et puis du coup, on lui demande de rendre des comptes de cette relation qu'il a avec Jésus. Il est connu pour être un de ceux qui étaient avec Jésus. Et c'est ce qui lui donne cette occasion de témoigner, en fait, de rendre compte de sa relation avec Jésus. Donc, pour pouvoir témoigner, il faut connaître Jésus, il faut savoir ce qu'est le royaume des cieux, il faut s'intéresser au règne de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a pris quelques disciples autour de lui, avec lui, pour les enseigner sur ces sujets, afin qu'ils deviennent témoins de ce que Jésus a fait et dit. Et c'est de la même chose pour nous. Dieu nous appelle à le connaître, à connaître son plan, à vivre en relation avec lui pour pouvoir connaître et pour pouvoir ensuite témoigner, rendre compte de ce qu'on vit, de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît de Jésus. Ce week-end, où j'étais au congé BU, là, il y a un de mes collègues qui m'a raconté une histoire que je vous raconte parce qu'elle allait bien dans le sujet. C'est un de ses amis qui a travaillé pour 5 ans dans une boîte et il quittait la boîte. Et puis, on lui porte un toast à la fin, puis il y a un de ses collègues qui dit, voilà, alors on est tous d'accord entre nous que tu étais le plus patient, que tu étais vraiment le plus sympa, le plus assidu, tu étais vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, tu nous aimais beaucoup, tu nous montrais beaucoup d'amour, et on s'est vraiment tous posé la question, pourquoi? Et on en est arrivé à la conclusion que tu étais bouddhiste. Et puis là, à ce moment-là, il s'est dit « Ah mince, j'ai peut-être perdu 5 ans d'occasion de témoigner, en fait. » Et puis donc, c'est vraiment ça, c'est rendre compte, on peut rendre compte de l'espérance qu'on a. On peut rendre compte de l'espérance qu'on a. Donc une fois qu'on est connu pour être chrétien et prêt à rendre compte, plein d'amour pour Dieu, plein de bonne volonté, il se peut cependant que des fois, on manque un peu de pertinence, en fait, lorsqu'on rencontre de notre espérance. Là, je vais vous parler de deux points, je trouve, qui nous font des fois manquer de pertinence quand on veut témoigner de Jésus. La première que j'ai remarquée souvent dans les groupes GB que je fréquente, c'est un peu la différence que j'appellerais socioculturelle. Je ne sais pas si le terme est vraiment tout à fait juste, mais on vit dans une société, finalement, post-chrétienne, donc, où, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, la plupart de la société avait des valeurs chrétiennes, et maintenant, la société s'éloigne de ces valeurs chrétiennes. De plus en plus, on les rejette, on les accepte de moins en moins. Alors avant, les gens connaissaient bien la Bible, ils connaissaient bien les chrétiens, ils connaissaient bien le message de l'Évangile. Maintenant, de moins en moins, on les met de plus en plus de côté. Et puis nous autres, chrétiens, on reste toujours accroché à cette Bible que l'on pense être la parole de Dieu. On pense toujours que c'est la vérité, que donc il faut la suivre. Du coup, il y a une espèce de fossé comme ça qui s'écarte entre la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous pensons que c'est juste de faire, et la façon dont le reste de la société fait. Et du coup, on vit dans une espèce de sous-culture, et puis, il se trouve que des fois, on a des concepts, des façons de parler, des choses qui sont complètement étrangères au reste de la société. C'est le cas, par exemple, enfin, je prendrai l'exemple de, des fois, je ne sais pas si vous avez l'impression, quand vous allez chez le médecin, il utilise plein de termes compliqués qu'on a de la peine à comprendre. Moi, j'ai pas été très souvent chez le médecin, mais depuis que je connais Lydia, j'ai remarqué ça un peu plus souvent. En fait, il y a plein de termes que j'arrive pas du tout à comprendre. Heureusement, elle fait l'effort de me les expliquer. Et puis pour nous, ça peut être la même chose. Des termes qui nous paraissent très simples, les gens de la société, ils vont pas du tout comprendre. Par exemple, si je vous dis, bon, une phrase un peu tarabiscotée, mais que vous comprendrez bien, si je vous dis « je suis lavé par le sang de l'agneau, le Christ a porté mes fautes », vous tous, vous comprenez assez facilement ce que je veux dire. Mais si je le dis à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'Église, il va me regarder bizarrement, il va se dire « mais qui est ce mec ? Il est vraiment... Enfin, qu'est-ce qu'il dit ? Il est complètement allumé ». Et puis, c'est vraiment un exemple tout simple de la différence qu'il peut y avoir entre nous et le reste des personnes qui ne connaissent pas du tout la Bible et le reste des personnes qui connaissent très très peu les chrétiens. Et puis, on peut penser que c'est une phrase très compliquée, mais il y a plein de termes. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à vos amis des notions de péché ou de foi. C'est des notions qui, pour nous, sont hyper claires, mais pour la plupart des autres... qui ne connaissent pas forcément beaucoup l'Église, c'est des notions qui sont très très abstraites et qui sont mal comprises en fait. Et puis bon, il n'y a pas que les mots, il y a aussi des idées, des concepts. On est dans des mondes assez différents, et ça, quand on veut témoigner de Jésus, il faut vraiment qu'on le prenne en compte. Sinon, ben, les gens vont penser qu'on ne peut pas du tout leur expliquer l'Évangile et ils auront de la peine à le comprendre. Puis la barrière culturelle, elle peut aussi aller un peu dans l'autre sens des fois. Nous-mêmes, on peut être choqués, décontenancés ou désintéressés par la culture ambiante, parce que les gens font, parce qu'ils disent ou parce qu'ils pensent. Du coup, des fois, on préfère rester dans notre petit monde familier avec des chrétiens, avec l'Église, parce que c'est plus confortable, on est avec des gens qui pensent comme nous, qui ont un peu les mêmes idées que nous. Moi, ça m'est arrivé parfois de me dire que je préférerais être avec quelques chrétiens plutôt qu'avec mes amis non chrétiens qui agissent et qui vivent des fois trop différemment. Je me rappelle, une fois, j'étais au bar avec deux, trois amis, et puis ils parlaient de leur plan drague, comment est-ce qu'ils allaient draguer différentes filles, et puis ben là, j'étais là, mais bof, c'est pas très intéressant comme conversation, je préférerais presque être avec d'autres gens. Mais malgré tout, ben, c'est l'occasion aussi, dans ces contextes, de pouvoir témoigner à divers moments. Et puis c'est là qu'on peut se rappeler aussi comment Jésus a agi. Jésus, il n'est pas resté auprès de ceux qu'il avait, de ceux qui étaient... très bien, ceux qui étaient proches de ses idées. Non, au contraire, il allait aux proches de ceux qui étaient pécheurs notoires, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient pauvres, ceux qui collaboraient avec les Romains. Enfin, Jésus, il allait avec toutes sortes de personnes auprès desquelles on peut imaginer qu'il ne se sentait pas forcément les plus proches en termes de vie et tout, mais pourtant, c'était auprès d'eux qu'il allait. Et puis, je pense à un deuxième point qui peut nous faire manquer de témoignage quand on doit... témoigner de Jésus, c'est aussi une chose que j'ai remarqué dans les GBU, c'est que des fois on a envie de faire du témoignage pour faire du témoignage en fait. On veut d'abord faire une action de témoignage avant de penser aux personnes. Des fois, par exemple, je trouve que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, dans le sens qu'on devrait plutôt d'abord réfléchir aux personnes qu'on a autour de nous et se dire, mais comment est-ce que moi, Yann, je peux leur expliquer ce que je vis, plutôt que me dire « Ah, là, je dois témoigner, je veux organiser une action de témoignage » sans forcément réfléchir aux personnes qui sont derrière. Je prends un exemple, c'est peut-être pas très très clair, mais je prends un exemple, il y avait une fois deux filles qui étaient venues au GBU, et c'était des filles qui n'étaient pas chrétiennes pratiquantes, mais elles étaient de tradition catholique, et puis elles sont venues dans notre groupe GB quand j'étais responsable, et puis je trouvais ça super. Et puis il y a un chrétien de très bonne volonté qui avait très envie de les aider dans leur cheminement de foi, qui s'était mis en tête qu'il fallait leur faire comprendre qu'elles avaient des idées fausses en fait. Et du coup, il leur a sorti tous des arguments théologiques à la longue, et puis il focussait son témoignage comme ça sur elles, il avait envie de témoigner de l'espérance de Jésus. Donc c'était vraiment parti d'une bonne volonté, puis je lui ai dit, mais fais pas trop en fait, sinon tu vas leur faire peur, enfin, puis elles vont se sentir vraiment mal à l'aise. Et puis, ben, malheureusement, il a continué, il leur envoyait des emails pour leur expliquer plein de choses, plein de grands sujets théologiques. Et puis voilà que ben, ces filles, elles sont parvenues au GB parce qu'elles se sont senties étouffées un peu. Après, j'ai pu rediscuter avec elles, puis elles ont dit qu'elles se sentaient effectivement pas très à l'aise dans notre groupe GB. Et puis là, c'est une occasion où ben, ce gars, il avait vraiment envie de témoigner, mais il a pensé qu'au témoignage sans vraiment penser aux personnes derrière. Alors que finalement, le fait qu'elles viennent au groupe biblique et qu'elles puissent lire la Bible, c'est un des meilleurs témoignages qu'elles puissent avoir du message de l'Évangile. Donc, il faut que nous, en tant que chrétiens, quand on rend compte de l'espérance qu'on a, on pense au contexte, on pense aux gens qui sont autour de nous pour qu'ils puissent bien comprendre. Par contre, il y a aussi un danger qu'on peut voir et que j'ai vu de temps en temps aussi, c'est des fois on veut tellement bien présenter l'Évangile d'une manière que les gens puissent comprendre qu'on le met un peu à la sauce contemporaine et on oublie des parties de l'Évangile en fait. Tout d'un coup, on parle de Jésus sans dire que c'est lui la seule vérité ou des choses comme ça, des choses qui sont un peu déplaisantes à entendre dans notre société. Et ça, c'est aussi un danger qu'on peut avoir, c'est qu'il faut en même temps présenter l'Évangile vraiment comme il est, mais en même temps essayer de faire que les gens puissent le comprendre. Et ça, c'est parfois très difficile. Moi, des fois, j'ai trouvé ça hyper difficile de discuter avec quelqu'un et de lui dire, mais écoute, pour moi, la seule vérité, c'est vraiment Jésus, et il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment difficile. Puis, une fois qu'on a envie de rendre compte de l'espérance qu'on a, une fois qu'on a vraiment envie d'aller, on peut avoir la peur de témoigner. Et ça, qui n'a pas connu cela, même Pierre en a fait les frais. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'Uni, des fois, j'allais faire de l'évangélisation dans les cafettes. On allait auprès des gens qui buvaient un verre, puis on allait avec une question et on leur disait, bah, moi, en tant que chrétien, je suis intéressé à savoir ce que tu penses sur ce sujet-là, par exemple. Est-ce que tu penses que Dieu a encore quelque chose à faire dans cette société ou... Et puis... Lors de ces moments où j'allais auprès de ces gens, à chaque fois, j'avais peur avant de commencer. Alors qu'il n'y avait pas de raison, enfin, je risquais rien du tout, si ce n'est que les gens me disent « Ok, on n'est pas intéressé ». Mais à chaque fois, j'avais peur. Et ça, c'est... la peur, c'est vraiment quelque chose d'un peu bizarre, parce que ben, nous, on ne risque pas grand-chose. Pierre, on peut comprendre, lui, il risquait sa vie. En même temps, Jésus, lui, il avait aussi, il risquait sa vie, et lui, il n'a pas succombé à la peur, lui, il n'a pas retenu son action, il a dit à Dieu que ta volonté soit faite plutôt que la mienne, quand il était vraiment dans ces situations de détresse. Donc, on nous mentionne dans la Bible deux épisodes où Pierre peut avoir peur. Il y a le reniement de Pierre qu'on a lu, et puis un autre qui nous est relaté en Galates 2, c'est Pierre qui est à Antioche et il mange avec des non-juifs dans la liberté qu'il a de le faire de l'Évangile, alors que quand on était juif, on n'avait pas le droit de manger avec des non-juifs. Et puis lorsque il y a des juifs pratiquants qui viennent à Antioche, tout d'un coup, il change d'attitude et il va se cacher. Il a dit qu'il va se cacher parce qu'il y a ces juifs qui sont arrivés en ville. Donc on peut avoir peur de témoigner, d'une part oralement, verbalement en fait, comme ça a été le cas lors de son reniement, il n'a pas voulu dire qu'il connaissait Jésus. Et puis on peut aussi avoir peur de témoigner par nos actes. Et souvent les actes, c'est ce que la société regarde le plus en fait. Moi, je me rappelle, j'ai manqué des occasions de témoigner plutôt par mes actes. Et des fois, on m'a repris sur mes actes en me disant « Mais Yann, ça, est-ce que c'est vraiment bien ?» Et puis là, je me suis dit « Oups, j'ai manqué une occasion de témoigner. » Puis, il y a, sur les choses qui peuvent nous faire peur, je pense qu'il y a trois choses que j'aimerais juste mentionner avant de conclure. Donc, il y a trois points sur la société, sur lesquels la société veut nous dicter un peu notre comportement. Et ça peut nous faire peur. La première, c'est qu'on est dans une société un peu pluraliste, dans le sens qu'on nous dit que voilà, chacun peut avoir sa vérité, chacun peut avoir sa bonne vérité qui est bonne pour lui et qu'il n'y a pas forcément de vérité absolue. Et puis ça, en tant que chrétien, c'est difficile parce que Jésus lui nous dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a une seule vérité en fait. Et nous, on doit aller contre la société qui nous dit, non mais chacun peut avoir sa vérité. Et nous, en tant que chrétiens, ben, on doit dire, non, il y a une seule vérité, c'est Jésus. Et puis ça, ben, c'est une chose qui peut nous faire peur et c'est une chose qui, moi, m'a fait peur en fait. La deuxième, c'est qu'on est dans une société aussi qui devient de plus en plus laïque. Mais laïque au sens de dire la foi, c'est une affaire privée. La foi, on n'aimerait pas qu'elle soit dans le domaine public. La foi, on aimerait vraiment qu'elle reste pour chacun dans sa vie privée. Et puis, alors que nous, on sait que la foi, elle va avoir un impact sur tous les domaines de notre vie. Quand on a la foi, ça transforme tous les domaines de notre vie, ça transforme notre façon de penser, notre façon d'être. On ne peut pas comme ça dissocier la foi du reste de notre vie publique. Et du coup, ça, c'est une deuxième chose qui peut nous faire peur, c'est de se dire, ben voilà, la société, elle veut pas qu'on parle de notre foi. Et pourtant, la foi, c'est quelque chose qui nous habite et qui nous vit complètement. Et puis la troisième chose qui peut nous faire peur aussi, ça je l'ai mentionné brièvement, c'est qu'on est dans une société post-chrétienne où avant, on vivait des choses qui étaient proches de ce que disait la Bible, et maintenant, on s'éloigne de plus en plus de ses enseignements. Et c'est vrai que ça peut nous faire peur sur... quelle sera la suite des événements, comment est-ce qu'on va concevoir le reste de notre société. Et ça peut nous faire peur de vouloir témoigner en tant que chrétien de ce que nous on pense. Donc voilà, je vais conclure simplement en vous disant que s'il y a une chose que j'aimerais que l'on puisse se rappeler ensemble, c'est surtout l'amour pour Dieu. Parce que c'est vraiment la base sur laquelle notre vie elle peut être fondée. Et c'est ce qui rend vraiment notre témoignage réel plutôt qu'artificiel. L'amour de Dieu, c'est ce qui va nous rendre bouillants pour rendre compte de cette bonne nouvelle qu'on connaît. Et finalement, c'est vraiment ça dont la société, notre entourage, nos amis, nos proches, nos voisins, ils ont ultimement besoin. Voilà. Je vais terminer par prier. Oui, Seigneur, je te prie que tu nous permettes de t'aimer de tout notre cœur. Des fois, c'est difficile, Seigneur, et on veut te demander que tu nous aides à chaque jour grandir en amour pour toi. Que par ton esprit, tu nous fasses découvrir ton amour et que cet amour nous remplisse de toi. Que cet amour, Seigneur, nous permette d'être fous amoureux de toi, Seigneur. Je te prie que tu sois le centre de nos vies, réellement. Et que notre relation avec toi nous pousse à témoigner de toi, nous pousse à témoigner que tu es la bonne nouvelle et tu es celui qui résout tous nos problèmes, Seigneur. Si ce n'est pas maintenant, tout de suite, ça sera avec toi dans l'éternité. Et Seigneur, on veut te remercier parce que même si tu es ce grand Dieu créateur de l'univers, celui qui a fait cette création, qui témoigne de toi, en même temps tu es ce Dieu qui s'approche de nous à travers la personne de Jésus, qui s'approche de nous à travers ton esprit. Et on te remercie pour cette relation qu'on peut avoir avec toi. Au nom de Jésus, Amen.